Oui, mon titre est un peu partiel puisque, en fait, c'est la fin de ma communication que, dans la dernière moitié, le dernier tiers, je m'arrêterai au récent roman de Don Anello, Zero Key, paru ce printemps. Donc, pour rendre compte de l'orientation que prend son travail alors qu'il va avoir très bientôt 80 ans et qu'il ne semble pas vouloir ralentir. Alors, dans un premier temps, j'offrirai une perspective plus large sur ses publications au risque d'être réducteur. Je serai sûrement réducteur. Je le ferai à partir d'une question qui rejoint certaines de celles proposées par l'appel de communication, que je résume ainsi. Un écrivain peut-il traduire un imaginaire national? Une œuvre peut-elle rendre compte à travers la fiction des enjeux culturels, idéologiques, politiques d'une nation avec nécessairement ses contradictions? Ou, pour adapter une formule de Gilles Marcotte, est-il possible que ce qui fait le tissu de la vie quotidienne d'une nation, la vie concrète, commune, ce qui appartient au discours utile, se retrouve dans une œuvre littéraire singulière, mais abstraite de l'histoire agie, et qu'ainsi s'en dégagent des lignes de force, celles que les pressions de l'actualité ne permettent pas de distinguer. On comprendra que poser la question ici, pour moi, c'est y répondre. De Lillo parvient justement, selon moi, à cristalliser la réalité américaine des États-Unis depuis 45 ans. Et cela m'apparaît d'autant plus fascinant, pour en revenir à la citation de Gilles Marcotte, De Lillo se trouve souvent près de l'actualité, même quand elle apparaît en creux, mais elle sert la narration plutôt que la narration est servie par elle. Alors, quel est l'enjeu pour moi d'une telle réflexion? Pour y répondre, je prendrai d'abord un exemple. J'ai souvent raconté que certains romans de Philip Roth m'avaient fait davantage comprendre la complexité de la situation israélo-palestinienne que toutes les études de politologues, de sociologues, de journalistes, aussi remarquables aient-elles été. Dans cette perspective, j'avance que la fiction peut être la meilleure manière d'appréhender le monde dans lequel nous vivons, de déchiffrer la réalité sociale. La fiction n'est en rien un type de texte supérieur à un autre, elle s'inscrit dans un cadre social, historique et culturel précis, mais elle oriente la lecture du côté de l'imaginaire en insistant de manière explicite sur le fait que l'humanité se détermine, c'est l'hypothèse que moi je défends, que l'humanité se détermine d'abord par la particularité suivante, c'est qu'elle se raconte des histoires. La fiction n'est pas un savoir objectif, mais elle a la capacité de refléter l'ensemble des savoirs, d'embrasser l'ensemble du discours social. Le texte littéraire fonctionne comme une société, écrivait Claude Duchet, et d'en proposer une lecture particulière. Alors, évidemment, il y a des conjonctures historiques, sociales, biographiques, qui font en sorte que certains écrivains se trouvent à un point de jonction parfait pour devenir les porteurs de cet imaginaire national. C'est en ce sens que je veux brièvement présenter le travail de De Lillo, auteur d'une quinzaine de romans, d'un recueil de nouvelles, de 4 pièces de théâtre et d'un scénario de film, j'en oublie peut-être. L'année où éclate le scandale de Watergate qui forcera Nixon à démissionner 2 ans plus tard, avait lieu la première démonstration publique d'Internet, suite aux travaux, entre autres, de l'ingénieur Ray Tomlinson dans le cadre du développement du projet ARPANET, Advanced Research Projects Agency Network, lancé au milieu des années 60 après la réussite de la première connexion informatique longue distance entre le Massachusetts et la Californie. Symboliquement, on pourrait ainsi faire de 1972 une année de rupture. Les théories du complot virulentes depuis le débarquement des puritains du Mayflower sur ce territoire qui allait devenir les États-Unis allaient prendre une nouvelle ampleur. Le réseautage annoncé intellectuellement depuis la naissance de la cybernétique, parallèlement aux conférences Macy's pendant la Deuxième Guerre mondiale, allait transformer le rapport au pouvoir, modifier le regard porté sur le réel par l'effet d'une virtualité qui allait de plus en plus brouiller les frontières du vrai et du faux, et avoir un effet important sur l'imaginaire américain. Un an avant le début de l'affaire Watergate, De Lillo publiait son premier roman intitulé « Americana ». Americana, comme s'il voulait d'emblée signaler que son œuvre allait s'ancrer aux États-Unis, que le pays déterminerait de bout en bout son écriture. Si les réseaux, dans leur acception informatique, sont aujourd'hui planétaires, ils trouvent leur ancrage aux États-Unis. Or, l'œuvre de De Lillo, elle est plus sensible aux effets politiques et sociaux de l'univers des réseaux, le terme pouvant se prendre ici dans un sens polysémique, puisqu'il s'agit à la fois des réseaux informatiques, du monde virtuel, de l'ensemble de l'univers médiatique, mais aussi des réseaux terroristes. On sait comment les réseaux ont transformé notre monde, pour le mieux dans une certaine mesure, mais on sait aussi à quel point ils ont conduit à une augmentation exponentielle de la propagande, de la manipulation, de la concentration. Comme l'écrivait Adolf Hitler dans Mein Kampf, avouez que vous ne l'attendiez pas celle-là, lorsqu'une nouvelle conception du monde est enseignée à tout un peuple, voire même imposée en cas de nécessité, cela va de pair avec une organisation sociale qui englobe le minimum d'hommes absolument indispensables pour occuper le centre nerveux de l'État. Cela dit, dans Underworld, un des plus célèbres romans de De Lillo, on retrouve l'échange suivant. Un personnage dit « What do we know? » et l'autre répond « That everything is connected. » Ce que nous savons, c'est que tout est lié. Mais si tout est lié, où est le point de départ? Qui décide, qui dirige, qui organise? Le monde présenté par Delillo est celui d'une rétroaction constante. Il n'y a personne en surplomb. Ceux qui croient dominer la hiérarchie sont toujours, quoi qu'ils en pensent, surveillés par d'autres. Au sens concret, un réseau est un ensemble de lignes entrelacées, au sens figuré, un ensemble de relations, mais liées à qui ou à quoi? Le sait-on toujours? D'où dans cette œuvre le secret, la conspiration, le soupçon, qui se trouve aussi bien au cœur du couple qu'au sommet de l'organisation de l'État. On a beaucoup parlé d'une littérature paranoïaque dans le roman américain au cours des dernières décennies. Delillo en est peut-être le plus perspicace représentant dans la mesure où la réflexion sur le pouvoir, pouvoir d'abord politique, mais pas uniquement, qui est réflexion qui est constante chez lui, se manifeste et se déploie à travers une série de figures, de thèmes qui forment une remarquable radiographie, dirais-je, des États-Unis à l'époque contemporaine, de ses plaisirs comme de ses peurs. Du désert à la ville, alors New York, qui est omniprésente et dominante, en passant par le Texas, emblématique de l'un et de l'autre, du désert et de la ville, hein, mais aussi des traumatismes américains, c'est le désert, c'est aussi Dallas. Du rock au sport, football, baseball, du cinéma essentiel et presque toujours présent à la science, de la publicité au terrorisme, de l'assassinat de John Kennedy, imaginé 25 ans après les faits dans Libra, à la chute des tours du World Trade Center, imaginé 5 ans après l'événement dans The Falling Man. Cette œuvre est d'autant plus fascinante que Delillo n'est jamais tout à fait là où on l'attend. Par exemple, End Zone est fondamentalement un roman sur le football, mais c'est aussi, et sans doute davantage, un roman sur la hantise de la bombe nucléaire au cœur de la guerre froide, sur le fanatisme, sur le langage et, de manière périphérique, sur Wittgenstein. Point Omega est un roman sur la guerre d'Irak, mais aussi sur Teilhard de Chardin et la théorie de l'évolution, etc. C'est une œuvre qui examine les hantises de l'Amérique contemporaine et la manière dont les réseaux les transforment, formellement, ontologiquement, pour le meilleur et pour le pire. Dans l'imaginaire, il y a bien sûr images. L'œuvre de Delillo se nourrit d'images. En entrevue, il a souvent dit que ses premières influences, avant les écrivains, étaient des réalisateurs de cinéma. Antonioni, Truffaut, Atman, Kubrick, Coppola, Scorsese, Bergman, Godard. Ce qui m'intéresse au premier chef ici, c'est que ce rapport à l'image constant, à la fois diégétique et conceptuelle, est rattaché à la réalité américaine. Alors conceptuel, on notera par exemple cette scène assez mémorable dans Underworld, où un groupe d'individus regarde et analyse un film qui avait été perdu et finalement retrouvé d'Eisenstein. Ce film, longuement décrit, n'existe pas, c'est une fiction à l'intérieur du roman, mais il y a une réflexion sur le montage chez Eisenstein qui est une parfaite mise en abîme, une poétique du roman que nous sommes en train de lire et qui traduit l'importance prise par la technique cinématographique dans la poétique de Delillo. Mais l'image est aussi diégétique en ce qu'elle renvoie énormément dans les textes à la place prise par les médias américains, en particulier la télé et plus récemment les médias en ligne, dans la culture américaine. Il y a cependant deux images, ou plutôt deux séries d'images qui ont valeur symbolique et politique dans son œuvre, notamment en ce qu'elle renvoie au secret, au mystère, à la paranoïa et à la terreur. Elle renvoie aussi à deux dates précises. La première est le 22 novembre 1963, l'assassinat de Kennedy, et la deuxième, le 11 septembre 2001, l'attentat contre le World Trade Center. D'un côté, le court film devenu iconique d'Abraham Zapruder, qui est sans doute le film amateur le plus célèbre de tous les temps, et les images en boucle des chutes des deux tours. Mais il faut comprendre que ces deux événements, ces deux scènes, ne s'y limitent pas et forment des balises pour comprendre les États-Unis à l'époque contemporaine. Les images de Zapruder, certes, signalent l'assassinat de John Kennedy, mais plus largement signifient l'époque de la guerre froide dont la présence hypnotique dans les romans surgit de toutes sortes de manières. C'est aussi le symptôme de la mort brutale, inattendue, absurde, qui surgit souvent à la manière de celle de Kennedy, comme dans cette scène qui revient à répétition dans Underworld, d'un type qu'on ne parvient pas à identifier et qui tire sur des automobilistes qui roulent sur l'autoroute, encore au Texas. Quant à la chute des deux tours, elle s'impose à cause des réseaux terroristes, mais au-delà, elle signale dans cette œuvre, largement située à New York, le cœur du capitalisme et les effets qu'il provoque. Le spectre du World Trade Center apparaît très souvent et je signale que dès le roman Players, publié en 1977, il y est question d'un attentat qui a lieu à cet endroit et qui détermine le récit. Alors, comme je me laissais du temps pour parler de Zero K, je voudrais terminer cette partie en posant l'hypothèse aussi que sur le plan plus spécifique de la littérature, l'œuvre de Delillo a la particularité de se trouver à la croisée d'imaginaires modernes et postmodernes, un phénomène singulier, en tout cas rare, dans la littérature qui lui permet de rayonner sur l'ensemble du corpus américain. Alors, je ne suis pas tout à fait naïf, en tout cas pas sur ces questions-là, et je sais bien qu'on peut baliser très précisément et objectivement les critères qui relèvent en littérature du modernisme d'un côté, du postmodernisme de l'autre, qu'on pourra en discuter jusqu'à plus soif, et que pour cette raison, je risque de me faire rentrer dedans à cause de ce que je dis au cours des 3 ou 4 prochaines minutes. Nonobstant, qui risque rien, je voudrais relever en tout cas certains éléments qui, à tout le moins, m'apparaissent complémentaires d'un courant et de l'autre et qu'on retrouve avec autant d'importance dans son œuvre. Et je tiens à le signaler dans la mesure où on accole très souvent et spontanément l'étiquette postmoderne à l'œuvre de Delillo sans nécessairement trop y réfléchir. En tout cas, il me semble que ça ne se limite pas à ça. Alors, j'associe Delillo à la modernité en fonction des cinq traits suivants qui sont récurrents chez lui. Premièrement, la plongée dans des vies ordinaires. À quelques rares exceptions près, on pourrait dire que la plupart des personnages chez lui n'ont pas de traits singuliers, ont des vies marquées par la banalité. Il y a même une insistance dans les bras qui portent sur le meurtre de Kennedy à montrer à quel point Lee Harvey Oswald est un individu banal, ce qui d'ailleurs est fort discutable. Sauf que ces personnages sont souvent plongés dans des situations hors normes, dans un cadre impressionnant qui tend à montrer que n'importe quelle vie banale peut devenir extraordinaire. Deuxièmement, il y a une volonté encyclopédique qui font de ces romans très souvent des ouvrages axés sur le savoir. Dans Libra, un personnage explique que les 26 volumes du rapport Warren ressemblent à ce que Joyce aurait pu écrire après Finnegan's Wake. Underworld a aussi quelque chose de l'épopée, comme Ulysses, dans un cadre quotidien qui en devient magnifié. C'est aussi le modèle par excellence du Great American Novel. Troisième trait, l'importance de la juxtaposition, largement héritée du cinéma, moins marquée peut-être que chez un Dos Passos, par exemple, mais quand même un trait distinctif. Quatrièmement, la figure de l'artiste en héros, ironisé ou non. Alors, l'écrivain, le peintre, le cinéaste a valeur héroïque, soit par l'importance de son œuvre, soit par une certaine pureté, l'art étant vu comme une certaine forme d'absolu. Hein, Bill Gray dans Mao 2, Clara Sachs dans Underworld, le jeune cinéaste Jim Finley dans Point Omega, la spécialiste d'art corporel Lauren Harkey dans The Body Artist, le jeune chanteur de rap dans Cosmopolis, sans oublier la figure magnifiée du célèbre stand-up comique Lenny Bruce dans Underworld, qui apparaît comme la figure inversée d'Edgar Hoover. C'est pas rien. Enfin, cinquièmement, l'importance du langage, une autorité accordée aux mots, à leur pouvoir, à leur effet, à leur vitalité. Un mot a une vie et une histoire, affirme un personnage de ses romans. Sont des traits, il me semble, qu'on peut retrouver chez plusieurs figures de la modernité de la première moitié du 20e siècle aux États-Unis, de Faulkner à Dos Passos, en passant par William Carlos Williams ou O'Connor, par exemple, mais aussi ailleurs, chez, bien sûr, Joyce, Virginia Woolf, etc. En même temps, on retrouve plusieurs éléments significatifs de la postmodernité. D'abord, pour reprendre les termes de Baudrillard, simulacre et simulation. Postmoderne signifie, entre autres, société post-industrielle, l'ère des réseaux, de la virtualité, des frontières floues entre vrai et faux, réel et virtuel. Delillo met en scène un monde où le concept même de réel est problématique, où le désordre est la règle, un monde sans valeur stable, où le pouvoir est partout et nulle part. En découle aussi, dans la diégèse, un refus des hiérarchies, il n'y a pas de frontières entre les cultures high and low, et un mélange des genres, utilisation des codes du polar, du thriller, de la science-fiction, même avec Ratner Style. On peut aussi parler de recyclage, de parodie, d'ironie, d'une forte propension à la métafiction. On n'y trouve pas cependant le penchant pour le relativisme qu'on a souvent reproché au postmodernisme, mais plutôt une critique ou à tout le moins une mise en perspective de ce relativisme. Il est symptomatique que la critique est souvent vue dans White Noise, un tournant dans la réflexion sur le postmodernisme dans la littérature américaine. Alors, je rappelle, elle est bien connue, cette célèbre scène au début du roman, White Noise, qui m'enseigne le professeur de l'université Jack Gladney, qui est responsable d'une chaire d'études hitlériennes et qui ne comprend pas un mot d'allemand. Il s'agit de la scène de la grange la plus photographiée d'Amérique. Alors, les touristes se précipitent pour la photographier alors qu'elle est d'une banalité sans nom, mais elle est photographiée parce qu'elle est la grange la plus photographiée d'Amérique. Alors, il y aurait toute une lecture à faire de cette scène dans la perspective des thèses de Benjamin sur l'œuvre d'art de la reproductibilité technique. Il ne faut pas nier la causticité à l'égard de la postmodernité dans ce roman où, dans une scène, Jack Gladney, se retrouvant en fin de journée sur le campus de son université, note bucoliquement qu'il voit un autre coucher de soleil postmoderne, riche en imagerie romantique. Alors, postmoderne et romantique, déjà, c'est tout un programme. Ainsi, Delillo m'apparaît produire une œuvre, j'appellerais intensément américaine, à la fois dans le rapport qu'il entretient avec le hors-texte, discours idéologique et politique, modification des structures, des codes sociaux à travers celles produites par une société largement virtuelle, fonctionnant en réseau, thèmes, événements, lieux propices à une réflexion sur la réalité américaine, mais aussi dans le rapport qu'il entretient avec la littérature américaine elle-même, dans une propension à s'inscrire dans la visée du Great American Novel, autant que dans la modernité et la postmodernité littéraire américaine, en amont et en aval, si on veut, à l'intérieur d'un corpus canonique. Alors, ce rapide survol me conduit à réfléchir à ce qu'il dit aujourd'hui de cette société américaine à travers son dernier roman, donc Zero K, il n'a pas encore été traduit. Roman qui s'ouvre sur une phrase que je trouve assez fabuleuse et en même temps assez emblématique de son œuvre. « Everybody wants to own the end of the world. » Tout le monde veut posséder la fin du monde. Dans cette phrase, on a un télescopage du capitalisme et du religieux, à la fois l'idée selon laquelle tout le monde voudrait posséder, acheter, avoir pour soi, puis l'idée d'une apocalypse finale. Il y a quelque chose de fou dans cette formulation qui relève de l'oxymore. Comment chacun, individuellement, pourrait-il parvenir à être propriétaire d'une fin qui, par définition, échappe à tous? Il y a là une folie, une sorte de pathologie de croire que tout peut nous appartenir si on a les moyens, une sorte de lecture pathologique propre aux dérives du capitalisme. Et la deuxième phrase pourrait corroborer cette lecture que je fais, donc c'est ma traduction. Ça commence par « Tout le monde veut posséder la fin du monde ». C'est ce que mon père disait, debout devant les fenêtres de son bureau de New York. Gestion de patrimoine, trusts familiaux, marché émergent. Nous sommes à New York, dans le milieu de la haute finance. Cette deuxième phrase souligne aussi que les propos sont ceux d'un père apporté par son fils et annonce les enjeux de la filiation présente tout au long du roman. Ce fils se nomme Jeff Lockhart et le roman raconte sa crise existentielle provoquée notamment par les problèmes de son père, avec qui il n'a pas de rapport très étroit, un père séparé de sa mère depuis longtemps. Son père est un milliardaire du nom de Ross Lockhart. Magnat de la gestion de patrimoine, il souffre de la maladie de sa deuxième femme, Artis Martineau, une archéologue beaucoup plus jeune que lui, en phase terminale, et qui s'apprête à être cryogénisée dans un complexe de haute technologie situé dans un lieu perdu au cœur de l'ancien empire du RSS. C'est impossible de savoir exactement où est-ce qu'on se trouve. Jeff questionnera ce désir, et encore plus quand son père annonce qu'il veut lui aussi se faire cryogéniser pour accompagner Artis. Il finira par s'y refuser dans un premier temps, avant de s'y décider, 2 ans après la mise en boîte, si vous passez l'expression, d'artiste. Jeff Lockhart entretient lui-même une relation avec une femme au passé flou, une relation stable mais élastique. Ils ne vivent pas ensemble, se voient quand ils peuvent, etc. Il ne sait pas si elle est divorcée ou séparée, mais elle a un fils étrange, prénommé Stack, aux origines imprécises par son père, qui tient des discours étonnamment détachés de la réalité. Ce jeune Stack, qui cherche un but à sa vie, mais sans l'énoncer ici, parce que comme d'habitude, il y a très peu de traits psychologiques marqués et affirmés dans le roman de Lilo, ce jeune Stack donc disparaît subitement. Jeff le verra par hasard sur un écran de télé, alors qu'il est au centre de cryogénisation, alors qu'il participe, donc cet adolescent, à une guerre ou à un mouvement terroriste, quelque part, semble-t-il, en Ukraine. Donc il voit ça dans une scène des informations. Et on croit comprendre à la fin qu'il est mort au cours de ces affrontements. Alors, ce n'est pas la première fois que Delillo, dans son œuvre, traite de science et de technologie, encore moins de terrorisme. C'est la première fois, par contre, qu'il utilise la médecine de manière aussi frontale. La première fois que la vie et la mort sont approchées de cette manière à travers les pouvoirs de la médecine. Et si souvent, dans ses romans, les événements apparaissent obscurs, se développent dans des états intermédiaires, en quelque sorte, les choses ne se terminant jamais clairement, mais je dirais s'épuisant. C'est la première fois que cette forme d'ambiguïté s'intéresse de manière aussi peu ambiguë, si vous me permettez le paradoxe, à la vie et à la mort. Dans « Pour une histoire de l'imaginaire », Luciane Boya écrit qu'il existe, je cite, « un type courant de polarisation, à nous la vérité, aux autres la bizarrerie, voire la stupidité. Cette disposition est elle-même une des figures essentielles de l'imaginaire », écrit-il. Or, je dirais qu'à cela, Delillo échappe presque complètement. L'imaginaire delillien nous situe presque toujours, au contraire, dans des zones grises, indécises, où les polarisations sont impossibles, et cet indécidable participe en soi des tensions de son univers social. Sauf qu'ici, cet indécidable porte sur une opposition qu'on pouvait croire, jusqu'à récemment, facile à discerner. Vivre, mourir. Or, Delillo va jusqu'à brouiller ces frontières-là. Je cite encore Boya, « L'imaginaire met son sceau sur l'ensemble de la démarche scientifique. toute théorie peut être apportée à une tendance archétypale. Toute théorie est aussi datée, témoignant d'une certaine mentalité, d'une idéologie, d'une vision du monde qui appartiennent à une époque, à un complexe culturel, à un milieu. Alors, à quelle tendance archétypale ce roman renvoie-t-il? Et à quelle date, si je puis dire, puisque toute théorie scientifique est datée? Disons d'abord que si les questions de science, elle est relativement peu mise en scène, les détails escamotés, car l'essentiel n'est pas là. Nous avons plutôt, à travers une science qui apparaît largement expérimentale, l'ossature d'une réflexion sur l'humanité aujourd'hui, à travers les possibilités d'un développement scientifique. Cette réflexion, elle porte sur le droit de choisir le moment de sa mort. La formule revient sous plusieurs formes dans le roman. Nous n'avons pas choisi notre naissance, nous pouvons choisir notre mort. Sauf que choisir sa mort, dans ce cas, c'est justement refuser de mourir. Il s'agit du risque d'aller par-delà la vie et la mort. Nous nous trouvons dans des limbes moins spirituels que matérialistes et scientifiques, et le lieu même où se déploient les opérations paraît hors du monde, à la fois géographiquement, mais aussi intellectuellement. Tous les gens qui travaillent dans ce centre semblent déconnectés du monde extérieur, et le lecteur peut avoir l'impression de pénétrer dans une secte. Nous sommes situés dans un imaginaire de la mort propre à notre époque, un imaginaire de la post-mort. Nous passons d'une opposition classique, ou bien nous sommes vivants, ou bien nous sommes morts, à un état contradictoire, de la vie à la mort à la vie, il y a un espace de transit. Je viens d'affirmer qu'il s'agit de limbes moins spirituelles que scientifiques, mais on peut évidemment y entendre les échos d'un discours qui annonce la vie éternelle après la mort au paradis. Le roman n'est pas exempt d'échos du discours religieux, et il y aurait sans doute beaucoup à dire sur la superposition des discours religieux et scientifiques dans le roman. Delillo, comme son nom le laisse entendre, est d'origine italienne et catholique, a souvent affirmé que les rituels de l'Église catholique avaient joué un rôle très important dans son imagination. Il reste que dans le contexte de Zero K, on ne peut s'empêcher de voir dans cette narration une diffraction du discours transhumaniste. Selon les principes du transhumanisme, la mort serait une maladie et nous devons nous donner pour but de trouver un remède à celle-ci. Le milliardaire Ross Lockhart est un important donateur de la firme qui cryogénise les individus. Il n'est pas inutile de rappeler qu'il a fait sa fortune dans la gestion de patrimoine, comme je disais tantôt, c'est-à-dire l'ensemble des biens matériels et immatériels des individus. Faut-il voir en lui une sorte de Méphistophélès? En tout cas, je rappelle, je paraphrase un article du Monde de 2013, mais c'est des informations qu'on retrouve facilement un peu partout, que depuis quelques années, Google est devenu un des principaux sponsors du mouvement transhumaniste, apportant en ce sens un soutien massif à des entreprises NBIC, nanotechnologie, biotechnologie, informatique, sciences cognitives, et que d'ailleurs, depuis 2012, Raymond Kurzweil est directeur d'ingénierie chez Google. Alors, de là à dire qu'à travers les réseaux de la santé, Google voudrait contrôler nos corps et nos esprits comme il contrôle l'information à travers Internet, disons qu'il n'y a qu'un pas pour l'imagination d'un écrivain paranoïaque comme Delillo. Par manque de temps, je ne fais donc ici qu'amorcer une lecture de ce roman, mais qui visait d'abord à montrer que, là encore, comme depuis 71, à sa manière toujours un peu périphérique, évacuant les discours sociologiques et psychologiques pour s'en tenir à l'imaginaire, Delillo propose à la fois une critique du capitalisme et des grands réseaux technologiques qui en serrent de plus en plus l'individu, le laissant dans un espace trouble où surgit ici l'ombre d'une nouvelle forme de l'homme nouveau. Le retour à une sorte de millénarisme sécularisé, où le sacré est réinvesti dans la science grâce au pouvoir d'un capitalisme par lequel, et dans l'esprit transhumaniste, la vision des droits de l'homme pourrait se réduire à ceci. Un citoyen est un être autonome qui n'appartient à personne d'autre qu'à lui-même, et qui décide seul des modifications qu'il souhaite apporter à son cerveau, à son ADN ou à son corps au fil des avancées de la science. Alors que les événements se déroulent dans le bunker scientifique, on entend, par le biais des écrans de télé, mais aussi au loin, l'écho de guerre, d'événements terroristes. Ce ne sont, dans le roman, que des échos lointains. Il ne s'agit que de la société. Qui s'y intéresse? Comme disait Margaret Thatcher, après Hitler, Margaret Thatcher, je suis dans un grand jour. Comme disait Margaret Thatcher, la société, ça n'existe pas, il n'y a que des individus, hommes et femmes. On n'est pas obligé d'être d'accord avec elle, et je ne crois pas que Delillo le soit. Je vous remercie.